Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors on est bien content de vous retrouver pour ce 95e épisode de l'émission. Et cette semaine, nous sommes trois dans le studio, Axel, Fred et on accueille Léon.
Bonjour.
Et bonjour à tous et à toutes.
Alors on vous rappelle que vous pouvez retrouver sur le podcast de l'émission, sur le site de RDIWA, toutes les émissions depuis le début. RDWA.fr et émission thématique l'étoile polaire, là vous avez 95 émissions avec les images aussi du ciel prises par Axel et Rémi au télescope et qui peuvent vous montrer aussi voilà, tout ce qu'on peut observer avec nos instruments. Alors on vous rappelle le mail de l'émission astro-rdwa@protonmail.com si vous avez envie de nous contacter, de nous faire des retours, de poser des questions ou de venir participer à l'émission dans la rubrique Nouvel Œil pour nous raconter votre rapport au ciel. Voilà pour cette petite introduction. Alors le sommaire de cet épisode, on va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir, voir un peu les constellations qui sont visibles en ce moment. Ensuite, on aura quelques petites actus du monde de l'astronomie. Puis ce sera la chronique astrale, où cette semaine, je vous parlerai de radioastronomie pour continuer un petit peu cette série d'émissions que j'avais démarrée avant l'été sur l'astronomie dans les différentes longueurs d'onde. Et puis après la pause musicale, ce sera la rubrique Abrac. Et là, Léon, qui est conteuse, nous racontera quelques histoires sur les constellations. Voilà pour ce sommaire. Alors on va démarrer avec le ciel ce soir. Et Axel, on t'écoute.
Eh bien oui, alors ce ciel du mois d'octobre qui est déjà bien entamé, ce ciel d'automne qu'on retrouve avec ces belles constellations comme Pégase à l'est, ce grand carré, qui est Pégase un peu, on va dire, à droite de Cassiopée. Cassiopée qu'on appelle souvent le W de Cassiopée, mais en ce moment... À la tombée de la nuit, c'est plutôt un 3. C'est
oui,
presque un 3. Oui.
Elle est vraiment dans la Voie lactée.
Ouais.
Et elle est droite.
Au bout de la Voie lactée.
Ouais. Ouais,
c'est ça. Et donc, sur la droite de ce 3, vous avez un grand carré vide, on va dire. C'est Pégase, le cheval ailé. De l'autre côté, c'est le moment, à la tombée de la nuit, où se couche le Bouvier. On peut voir Arcturus encore un petit moment, une petite heure à peine, à la tombée de la nuit, avant qu'il parte derrière l'horizon. Si on voit Arcturus, évidemment, à sa droite, vous avez la Grande Ourse, vers le nord, toujours, avec sa position en ce moment, on va dire, utile, si on parle d'une casserole. La position à plat, où on ne lui voit pas les pattes à la casserole, enfin à la Grande Ourse, à la casserole, on la voit en entière. Mais j'aime bien rappeler de temps en temps que la casserole, c'est une partie seulement de la Grande Ourse qui s'étend bien plus loin et donc en ce moment, les pattes sont derrière l'horizon. Voilà, au sud, qu'est-ce qu'on a au sud en ce moment? On a Altaïr, on a l'Aigle qui est vraiment plein sud au moment de la tombée de la nuit.
On a le triangle d'été hein, qui est un peu au-delà du méridien maintenant.
Ouais, c'est ça, qui a passé l'axe nord-sud. Qui commence à redescendre dès que la nuit se fait. Il est déjà en train de descendre.
Vraiment au sud, on voit encore le Sagittaire.
Oui, un petit bout du Sagittaire et du Capricorne à sa gauche, en allant vers l'est. Voilà, que dire de plus? Je parle de la deuxième partie de soirée pour les couches tard.
Comme sous Pégase, on peut mentionner, il y a Saturne.
Oui, ouais, j'allais y venir aux planètes. Après, oui, c'est vrai que si on reste dans la première partie de nuit, dès la tombée de la nuit, on a Saturne qui est bien là, qui brille de sa belle lumière stable et fixe, qui ne scintille pas. La façon dont vous pouvez être sûr de l'observer à l'œil nu. Et puis, bien sûr, au télescope, eh bien là, vous aurez la chance d'apprécier ces anneaux qui sont encore visibles plutôt de face, donc comme un petit trait. On dirait que la planète est barrée. Voilà, si on attend un petit peu, sous Pégase, il y a les poissons, on attend encore un petit peu, et petit à petit, c'est les gémeaux qui vont arriver.
Taureau.
Taureau et gémeaux ensuite, pardon, avec Jupiter, qui est dans ce secteur-là en ce moment, pas très loin des gémeaux, un peu en dessous. Et puis, si tu parles du taureau, il y a une belle chose à repérer aussi, qui questionne beaucoup de gens. Ils disent, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc, cette petite tache, ce petit tas d'étoiles? Eh bien, c'est les Pléiades. Il y a de fortes chances que si vous posez cette question, vous soyez en train d'observer les Pléiades sous Pégase, entre Pégase entre Andromède, on va dire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et le taureau, et Aldébaran, cette étoile rouge.
Bien, ça fait un peu la même chose, je trouve, mais bon, en plus fort. Mais en l'hiver, il y a l'amas de la crèche, là.
Ouais.
Donc aussi, lui aussi, il est un peu au milieu de... Enfin, il est même un peu plus au milieu de rien. Et, oui. Mais on le voit quand même, on a l'œil qui passe dessus.
Ouais,
souvent, les gens, ils demandent, mais c'est quoi ça, quoi?
Mais c'est quoi cette tache? Ah, il y a un nuage, là. Non, c'est pas...
Alors, c'est moins frappant que les Pléiades, parce que c'est un peu moins lumineux.
Ouais.
Mais dans l'hiver, ouais, on le...
C'est un peu moins défini, si peut-être.
Oui, ouais, mais on voit qu'il y a quelque chose, quoi. C'est un truc diffus. Alors que là, sur les Pléiades, on voit carrément, si on a une vision un peu correcte, on peut même compter les étoiles à l'intérieur.
Ouais, c'est ça, oui.
D'ailleurs, c'est un petit jeu, des fois, entre astronomes, à savoir combien d'étoiles tu comptes.
Hein. Ah oui, oui. Ouais, bien sûr. Oui, on a des jeux bizarres. Mm. voilà, et puis au petit matin, on a encore Vénus, mais tout juste avant que le jour n'arrive, puisqu'elle se lève vers 6h30, 7h. Le soleil n'est vraiment plus très loin. Quand Vénus se lève, elle marque en ce moment la fin de la nuit. Voilà pour ceci.
Orion, quand même.
Et Orion, un peu avant, ouais, c'est pareil. C'est
Orion, deuxième partie de nuit.
2h du matin, ouais. 2-3h.
Il y a une belle partie du ciel à observer entre Orion, Sirius et puis le taureau. À cette zone-là, ça fait quand même... Il y a pas mal d'étoiles assez brillantes. Sous les Gémeaux, on a Jupiter qui brille bien aussi.
Ouais.
Donc là, il y a, sous le ciel de deuxième partie de nuit, il est beau.
Jupiter qui, dans sa course autour du Soleil, est encore en train de se rapprocher de la Terre. Enfin, pas précisément de la Terre, mais on s'approche du moment où on sera au plus près de cette année de Jupiter. Et c'est pour ça qu'elle est de plus en plus brillante. Mais tu fais bien de mentionner Orion, cette constellation qui ressemble un petit peu à un sablier, avec trois étoiles au centre, la ceinture d'Orion, trois étoiles alignées de même brillance. Si vous regardez Orion, un petit peu en dessous, il y a quelque chose d'un peu flou aussi. C'est plus léger, c'est plus petit que les Pléiades. Mais c'est une des rares choses que vous pouvez voir dans le ciel qui ne sont pas des étoiles, puisque c'est la grande nébuleuse d'Orion, et c'est elle qui illustrera le podcast de cette émission sur le site.
Tu l'as prise, t'as fait une photo.
En gros plan cette fois, parce que je l'avais déjà mise en champ plus large. Et là, j'ai fait un gros plan. Ouais.
Bah, c'est sûr que c'est un des plus beaux objets du ciel, hein, la grande nébuleuse d'Orion. Et c'est vrai que l'œil, il la capte, hein. Ça c'est sûr. Ouais. Donc c'est du gaz, hein, nébuleuse. On n'est pas vraiment sur de la matière, en tout cas pas dense, quoi.
Ouais, c'est un nuage de gaz. Non, si tu parles de densité, au cœur de la nébuleuse d'Orion, la densité est plus faible que dans le meilleur vide qu'on sait faire sur Terre.
Voilà. Ok, merci Axel.
Mais je vous en prie.
On va compléter un petit peu avec une actu. En fait, vous parlez des Orionides. Les Orionides, c'est une pluie d'étoiles filantes qui revient tous les ans. Et donc là, elle va atteindre son maximum le 21 octobre. Alors, son maximum, ça veut dire quand même qu'on peut l'observer pendant plusieurs jours, un peu avant, un peu après. On l'observe plutôt en deuxième partie de nuit, voire en toute fin de nuit, quoi. En fait, pour les pluies d'étoiles filantes, on leur donne un nom qui est le nom d'une constellation et on rajoute id. Donc, par exemple, quand on parle des étoiles filantes en été, en fait, ce sont les perséides et c'est une pluie d'étoiles filantes qui revient tous les ans. On peut préciser pourquoi. C'est qu'en fait, la Terre, dans sa trajectoire autour du Soleil, donc c'est toujours la même, hein, cette trajectoire, elle va traverser des zones qui ont été traversées par des comètes. Donc en fait, les comètes, dans leur passage dans le système solaire, elles laissent derrière elles des traînées de matière, de poussière, de petits débris. Et en fait, nous, en voyageant autour du Soleil, on rentre dans ces zones-là. Et donc, en fait, c'est ça qui va créer les étoiles filantes dans la haute atmosphère, en fait. Ces petits débris de matière qui viennent se consumer dans l'atmosphère. Donc, on donne le nom d'une constellation, et c'est pas au hasard. C'est en fait, si on s'amusait à repérer ces, euh, c'est les étoiles filantes qu'on voit sur une carte du ciel. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire, hein, ça fonctionne très bien. Vous repérez les trajectoires sur une carte du ciel et ensuite vous tirez des droites pour prolonger et vous avez l'impression en fait, que toutes viennent de la même origine. Et donc cette origine, ça va être là en l'occurrence dans Orion, alors que l'été, c'est dans Persée. Voilà, il y a aussi les Léonides en hiver qui sont... selon les années plus ou moins fortes. Et là, on attend à peu près une vingtaine d'étoiles filantes par heure. Donc c'est quand même... c'est pas non plus la pluie de feu, mais ça peut être quand même assez chouette. Et puis ce que je trouve chouette aussi, c'est que dans les Orionides, en fait, la comète qui est à l'origine de ces débris, c'est la comète de Halley, qui est assez connue et qu'on observe depuis à peu près 2000 ans, avec sa période de 76 ans. Voilà, donc là, je sais pas, je crois qu'elle va revenir peut-être dans une trentaine d'années.
C'était fin 80, c'était 87, je crois.
Un truc dans le genre. Moi, je me souviens l'avoir vu enfant, en fait, ouais. La comète de Halley. Et en me disant, voilà, plus 76 ans, ça m'amène à plus de 80 ans, peut-être. Oui, on ne sait pas si je la reverrai un jour ou pas.
On dit que c'est la comète que tout le monde peut voir une fois dans sa vie, et les plus chanceux deux fois. Si on est né au bon moment et qu'on vit suffisamment vieux.
Donc voilà, si ces jours-ci, vous, en deuxième partie de nuit, là, vous voyez des étoiles filantes, vous pouvez vous dire qu'en fait, vous voyez un petit bout de la comète de Halley, qui se consume dans notre atmosphère. Voilà pour ces Orionides. On va passer à la suite de l'émission et donc à la chronique astrale. Donc cette semaine, je vous parle de radioastronomie. Donc je vous renvoie aux émissions, si ça vous intéresse, hein, bien sûr, 89 et 90, que j'avais faites avant l'été, où j'avais parlé en fait de l'astronomie en infrarouge et en ultraviolet. Donc on rappelle en fait que ce qu'on appelle lumière, pour les physiciens, c'est beaucoup plus vaste que juste en fait ce que nos yeux voient. La lumière, c'est le rayonnement électromagnétique et qui est défini par sa longueur d'onde. Donc, entre le rouge et le bleu, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et à chacune est associée ce qu'on appelle une longueur d'onde et qui, en fait, revient à déterminer à quelle fréquence va vibrer le champ électromagnétique de cette couleur-là. Donc après, il y a tout un spectre électromagnétique. Au-delà du bleu, en fait, on va trouver les ultraviolets, puis les rayons X, puis les rayons gamma. Là, on va vers quelque chose de plus en plus énergétique. Donc je ferai une émission sur astronomie X et gamma aussi. Et puis si par contre on descend sous le rouge, on va trouver d'abord les infrarouges. Et puis ensuite on passe sur les ondes radio. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ces ondes radio, donc pour parler un peu fréquence, ce qu'on va observer en astronomie, on va être entre 30 MHz. En dessous, ça marche pas très bien parce qu'on a l'ionosphère en fait qui vient interférer avec qui coupe en fait les rayonnements qui ont des fréquences plus basses que ça et plus hautes que ça, pardon. Et sinon, on a de l'autre côté, on a les ondes millimétriques. Parce qu'en fait, en radioastronomie, les ondes radio, pour le coup, c'est vraiment vaste. Autant le visible, il n'y a pas une énorme différence hein, de longueur entre 0,4 et 0,8 micromètres pour le visible. Là, en fait, on peut aller d'ondes millimétriques à 15 mètres. En fait, il y a une énorme gamme. Et donc aussi des détecteurs un peu différents. Et surtout, on observe des choses vraiment différentes. Mais pour tout ce qui est ondes millimétriques, et bien après, c'est l'eau de l'atmosphère qui va venir nous brouiller le signal du ciel. Donc en fait, on a quand même une bande assez grande, mais qui est limitée par l'ionosphère d'un côté et par l'eau présente dans l'atmosphère de l'autre. D'une façon générale, ces fréquences-là, ces longueurs d'onde-là, elles sont assez sensibles aux activités humaines. Enfin, en fait, les activités humaines en génèrent pas mal, que ce soit la radio, hein, ce qu'on est en train de faire là, okay. Par exemple, tout simplement. Ça peut être votre micro-ondes, ça peut être tout un tas de trucs, en fait, qui en fait génèrent du signal. Et comme on observe quand même des trucs qui sont très très faibles, et ben on a besoin d'avoir des antennes énormes. Donc par exemple un des radiotélescopes les plus connus, il marche plus maintenant, mais c'est Arecibo. Arecibo, il avait un diamètre de 305 mètres. Donc c'est il n'y a pas de télescope optique qui fasse cette taille-là. On n'est pas capable de construire un miroir de 305 mètres. Là, en l'occurrence, sur les ondes radio, en plus, ce n'est pas des miroirs, c'est juste en fait des surfaces en béton. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est énorme. Donc, on a aussi, on peut parler aussi de Alma, qui est au Chili, dans le désert d'Atacama. Et souvent, du coup, on va construire plutôt des interféromètres. Alors, on a déjà parlé de cette possibilité qui consiste, en fait, au lieu d'avoir un seul miroir énorme, c'est d'en avoir plusieurs petits, mais qui sont espacés les uns des autres. Et donc, vous mettez, par exemple, 3, 4, 5, 6 télescopes qui vont être à 100, 200, 300 mètres de distance. Et vous allez avoir un peu moins de précision qu'avec vraiment le télescope qui fait la taille. Mais vous avez quand même, c'est comme si vous aviez un miroir en fait de 300 mètres, quoi, alors que vous avez que 3, 4 télescopes de 1 mètre. Donc ça fonctionne bien, les techniques d'interférométrie, et dans les ondes radio, on utilise beaucoup ça. Bon, voilà, c'était un peu la petite introduction. Alors moi, en fait, je vais surtout vous faire une sorte d'historique de la radioastronomie, comment elle est rentrée, cette technologie, cette façon d'observer dans l'astrophysique. Et ça commence en fait en 1933 avec un certain Karl Jansky qui était ingénieur à la compagnie de téléphone américaine Bell. Et lui, en fait, il est en train de mettre au point ses petites machines et il observe des signaux radio qui reviennent périodiquement tous les 23h56. Alors, comme quand même il n'est pas complètement ignorant des choses du ciel, il réalise que 23h56, en fait, c'est une journée sidérale. C'est-à-dire le temps entre en fait, le passage au zénith de la même étoile, par exemple. Donc, il comprend en fait que ce signal il vient des étoiles. Et donc, il cherche un peu. Et en fait, c'était la première détection en radioastronomie. C'était des ondes à une longueur d'onde de 15 mètres. Qui provenait du centre galactique. C'est la première chose qui a été détectée. Il s'est rendu compte que le centre galactique émettait des ondes radio. Et ça n'avait jamais été observé avant. Donc il a publié ça en 1935 et ça n'a eu aucun impact. Mais aucun. Alors il n'était pas chercheur, il était ingénieur en téléphone, mais personne n'a relevé, quoi. Donc ensuite, ça nous amène en 1936, où là, en fait, il y a eu un maximum d'activité solaire assez important. Et il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait des parasites sur les ondes radio. Parce qu'on écoutait déjà la radio, largement, en 1936. Et cette année-là, il y avait très souvent des parasites qui étaient dus aux éruptions solaires, qui étaient dus à l'activité du soleil. Mais là encore, personne n'a fait le lien. C'est juste après qu'on s'est rendu compte. Ah, mais à cette époque-là, le soleil avait un gros maximum et les ondes radio ont été perturbées. En fait, c'était ça. Mais sur le coup, rien. Donc ensuite, ça nous emmène à 1942, où là, on a un monsieur Hay qui travaille sur les radars. Et lui, en fait, il détecte des émissions radio à la longueur d'onde 1 mètre. Vous voyez, quand je vous disais la grande différence de longueur d'onde, tout à l'heure, sur le centre de galactique, on est à 15 mètres. Là, les ondes radio dont on parle, elles ont 1 mètre de longueur d'onde, donc c'est quand même assez différent. Et il voit, lui, que ça coïncide avec les taches solaires. Donc, il détecte une émission radio due aux taches solaires. Et donc, c'est surtout après la guerre, en fait, que la radioastronomie va se développer, tout simplement parce qu'on va utiliser du matériel militaire qu'on va reconvertir. Et comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur les radars, sur tout ça, en fait, ils ont énormément amélioré la technologie des antennes. Et donc, on va reconvertir ce matériel militaire pour faire de la science. De là à dire que les guerres sont utiles. Pas jusque là. Alors, en 1951, on a Ewen et Purcell, en fait, qui détectent l'arrêt de l'hydrogène à 21 cm dans la Voie lactée. Donc ça, c'est une longueur d'onde fondamentale pour l'observation du ciel. Donc il y a effectivement une raie de transition de l'hydrogène à 21 cm de longueur d'onde. Et ça, en fait, ça nous permet tout simplement de faire la cartographie de l'hydrogène dans le ciel. Donc là, sur tout ce qui est l'hydrogène, c'est quand même l'élément le plus commun de l'univers, celui qui est présent en plus grande quantité. Donc la plupart des nébuleuses sont constituées d'hydrogène. Donc autant dire que quand on cartographie l'hydrogène, en gros, on cartographie la matière dans la galaxie, quoi. Donc ça a été une avancée énorme. En 1956, je mentionne la construction, l'inauguration de la station de radioastronomie de Nancy, qui contenait 32 radiotélescopes. Alors ça, moi, j'ai eu l'occasion de la visiter.
Elle existe encore, je crois.
Je sais pas, je pense. En tout cas, à l'époque, c'était un peu à la pointe.
Ouais.
Mais moi, quand je l'ai visité, franchement, il y avait un côté un petit peu Décati, quoi. Enfin, c'était, ouais, pas forcément. Bon, ça fonctionnait encore, mais je pense que c'était quand même un peu sur la fin, quoi. Après, il y a des gens, il y a des grands noms, hein, genre Luminet, il a bossé là-bas, ouais, etc. Il y a plein de choses.
Ça ressemble à un champ d'antenne râteau pour capter la télé un peu.
Ouais, il y a pas mal d'antennes râteaux. Il y a aussi pas mal de petites antennes de 1 mètre rondes.
Ah oui.
C'est en fait, ça ressemble un peu à rien.
Ouais,
c'est pour être honnête, c'est pas des trucs
qu'il y
en
a
béton.
Parce qu'il y a un paquet qui sont passés devant sans bah... se demandant ce que c'était. Ouais. Sans penser à l'astronomie.
Non, faut le savoir. Parce que c'est pas évident. Mais bon, ceci dit, ça a permis quand même de faire plein de choses en radioastronomie et ça a bien fonctionné. Ensuite, ça nous emmène en 1964, où là, on a Penzias et Wilson qui découvrent le rayonnement fossile. Donc, le rayonnement, le fond cosmologique résidu du Big Bang.
La première diffusion de lumière,
ouais,
de l'univers.
Exactement. On a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises dans l'émission de parler de ça un peu en détail. On rappelle, en fait, que selon la théorie du Big Bang, il y a un moment, en fait, où l'énergie, on va dire, comme l'univers est en expansion et que la quantité d'énergie, elle est finie, elle est ce qu'elle est, même si elle est énorme, en fait, l'univers se refroidit. C'est-à-dire que l'énergie se dilue petit à petit dans un univers qui grandit. Et donc, on arrive à un moment où l'univers est suffisamment refroidi pour que les électrons viennent s'agglutiner, en fait, aux protons. Et donc, pour former des atomes, quoi. Et donc, à partir du moment où les électrons arrêtent de se balader comme ça dans le cosmos, et ben du coup, on dit l'univers devient transparent, puisque les photons peuvent circuler. Sinon, à chaque fois, ils rencontrent un électron, ils peuvent pas faire 10 cm sans être arrêtés, quoi. Donc, en fait, c'est le moment où l'univers devient transparent. Donc, les électrons se sont fixés autour des protons. Et là, en fait, d'un coup, il y a un énorme flash de lumière, puisqu'un électron, pour fixer autour d'un proton, il désexcite en émettant un photon, donc ils ont tous émis des photons. Et on a cet énorme flash dont on observe encore le résidu, et on l'observe en radio.
Qui est même une des preuves du Big Bang.
C'est un des gros accomplissements, ouais, effectivement, du Big Bang, et c'est cette découverte-là par la radioastronomie, ouais, qui a un peu donné ses lettres de noblesse à la radioastronomie, ouais, et où les gens ont commencé à se dire, bon, là, il y a vraiment un truc à faire. Mmh. C'est une discipline super intéressante, quoi.
Ouais.
Donc, c'est vrai que les instruments sont ingrats, hein. Faut être honnête, c'est pas beau. Enfin, moi, Arecibo, pour ceux qui connaissent pas, il est dans James Bond, là, je sais plus dans lequel c'est.
Dans GoldenEye, ouais, à la fin de GoldenEye. Mmh. Sinon, dans Contact aussi.
Voilà, donc vous voyez cette énorme antenne, c'est énorme, 300 mètres de diamètre.
Oui. Et un gros bol de béton.
Mais en béton, voilà. Alors que, bon, tu vois, Hubble, tu vois, c'est tout que c'est beaucoup plus petit, mais quelque part, ça fait un peu plus télescope optique, je sais pas, ça fait un peu plus rêver qu'il y ait une espèce de demi-bol en béton. Enfin, bon, voilà. Mais en attendant, on peut faire de la science intéressante avec. Et puis voilà, je vais citer en dernier, en 1967, Burnell qui détecte le premier pulsar. Donc là aussi, les étoiles à neutrons là, qui tombent très vite sur elles-mêmes, etc., etc. Donc en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal de découvertes assez fondamentales de l'astrophysique moderne qui ont été obtenues grâce aux techniques de radioastronomie. Alors, voilà un peu pour cette petite historique.
Vas-y. J'allais demander, mais peut-être tu vas y venir après, il y a des radiotélescopes spatiaux qui sont
c'est une excellente
question. Tu
parlais
de la ionosphère qui nous gêne.
Oui, mais oui.
L'ionosphère en général.
Mais c'est une excellente question. Il faut que je cherche un peu plus. Mais s'il y en a, ce sera forcément des interféromètres parce que je les vois mal balancer des trucs de 300 mètres en spatial.
Ouais, c'est sûr.
Ça n'arrivera pas. Ouais. Mais en interféromètre, il y a forcément des choses. Je chercherai pour la prochaine fois. Là, j'avoue la faiblesse de ma préparation. Je ne sais pas. Voilà, alors je vais terminer en parlant un petit peu du coup de ce qu'on observe maintenant. Enfin voilà, quelles sont les sources radio dans le cosmos. On a d'une part en fait tous les rayonnements thermiques, donc les plasmas chauds, les nuages de gaz interstellaires, les enveloppes d'étoiles, les corps solides aussi émettent en radio, donc les astéroïdes, les planètes, etc. Il y a un rayonnement radio qui est lié à ça. Et aussi donc le fond diffus cosmologique qu'on continue en fait à essayer de cartographier avec le plus de précision possible, Parce que ce qui intéresse les astrophysiciens, c'est de voir justement les inhomogénéités qui sont dans ce rayonnement et qui peuvent, sur des infimes variations de température, expliquer en gros des débuts de structuration de la matière dans l'univers, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que si vous avez un endroit qui est un peu plus chaud ou un peu plus froid, bah vous allez avoir préférentiellement la matière qui va commencer à s'agglutiner là et pas là, etc. Et donc, vous pouvez expliquer, enfin, ils cherchent à expliquer la façon dont la matière a construit son architecture entre les galaxies, etc. Donc, ça s'étudie toujours. Ensuite, il y a un rayonnement qui n'est pas thermique, c'est le rayonnement synchrotron. Ça, c'est de la physique, c'est-à-dire que toute charge électrique qui a un mouvement circulaire émet un rayonnement électromagnétique. Donc, un électron, par exemple, qui se retrouve à tourner assez vite, par exemple, quand il est projeté à l'intérieur d'un trou noir ou quelque chose comme ça, il se met à spiraler et à émettre un rayonnement qu'on va pouvoir capter aussi en radio. On a les raies spectrales dont on a parlé, donc type hydrogène, là, l'hydrogène à 21 cm, donc là qui sont dues à des transitions énergétiques aussi de molécules ou d'électrons. Voilà en gros ce qu'on observe. Et là, je suis tombé sur un truc qui est quand même... C'est-à-dire que là, en 2019, on a une certaine Anna Kapinska qui, en Australie, a découvert ce qu'ils ont appelé des orques, c'est-à-dire... Odd Radio Circle, c'est-à-dire des cercles radio étranges. Et en fait, ils en ont détecté 5 qui sont de grands objets, plus grands que des galaxies, qui sont plutôt ronds et dont l'origine est absolument inconnue. Là, jusqu'à présent, on n'a aucune idée de comment ces trucs-là peuvent se structurer à partir de ce qu'on connaît des dynamiques des galaxies, quoi. Donc voilà, c'est comme une espèce d'énorme bulle. Alors, sur les 5 qui sont avérés, dont la détection est avérée, il y en a 3 qui ont leur cœur ont une galaxie. Donc est-ce que d'une façon ou d'une autre, c'est une émanation de galaxies? Mais en fait, on n'en sait rien. Et c'est vraiment très gros. Et ça n'émet qu'en radio. Il n'y a aucun signal dans les autres longueurs d'onde. On ne peut pas les détecter autrement. Mystère. Et là, voilà, ça a 5-6 ans. Et donc voilà, encore maintenant, la radioastronomie, en fait, nous emmène sur de nouvelles pistes qui seront à creuser.
Ah oui, tu dis ça pour susciter des vocations.
Mais tout à fait.
Aux jeunes auditeurs et aux auditrices. Ouais, ouais. Ouais. Il y a toujours des choses à découvrir. Et de plus en plus, même.
Donc voilà, à suivre.
Yes.
On va passer à la pause musicale. Cette semaine, ça va être Janis Joplin avec A Piece of My Heart.
C'est parti. Et merci, Fred.
Et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur Erdiwa. Alors, on va continuer cette émission en accueillant Léone.
Bonjour.
Bonjour Léone. Donc, tu es conteuse.
Oui, c'est ça.
Et tu
as participé ce week-end,
oui,
avec moi, enfin pas le même jour, mais à l'événement national qui est le jour de la nuit, qui est un week-end pour parler de la nuit et de ses menaces, notamment la pollution lumineuse. Et souvent, c'est les mairies ou les parcs naturels qui organisent des événements autour de ça. Ici, chez nous, c'est la mairie de Die qui s'est emparée du sujet et qui a proposé, alors si je le fais dans le désordre, dimanche, une journée sur les chauves-souris avec le parc du Vercors, avec le collectif biodiversité d'Iwa et je crois qu'il y avait un troisième partenaire qui m'échappe. Voilà, avec un atelier de construction de nichoirs à chauves-souris. La veille, samedi, c'était moi-même, votre serviteur, qui était à Chabestan, sur le stade de Chabestan, avec mon télescope, pour vous parler du ciel et pour surtout vous le montrer au télescope. Et donc j'ai accueilli une belle foule d'une quarantaine de personnes qui étaient ravies, pour la plupart, d'observer pour la première fois Saturne. Il y avait deux, trois autres qui s'y connaissaient déjà un peu, mais voilà, on a vu Saturne, on a vu des amas d'étoiles. On n'a pas vu la Lune parce qu'elle se levait relativement tard. Enfin, on aurait pu, mais les gens sont partis avant, alors tant pis. Voilà, et puis la veille, le premier jour de cet événement, c'était toi qui ouvrais le bal, Léone, avec des contes sur la nuit, puisque donc tu es conteuse, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
Mais tu ne comptes pas que sur la nuit.
Non, c'est ça. C'était même une première pour moi de raconter sur les étoiles.
C'était spécialement pour l'événement là ou...
Ouais.
Ah ouais, ok. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose que tu vas réitérer. Ça t'a donné envie de
revenir. Oui, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de... Bah, j'ai poussé cette petite porte et je viens de découvrir un monde que je trouve vraiment passionnant. Et ça m'a donné envie de continuer de raconter, de polir les histoires pour qu'elles brillent encore plus.
Et est-ce que tu toi-même observes le ciel, les constellations sur lesquelles tu parles, est-ce que tu les observes ?
Eh bien, j'ai souvent, comme j'imagine un peu tout le monde, observé les étoiles auparavant au cours d'un bivouac. Sauf que c'est toujours difficile de savoir qui est qui là-haut, à quoi correspond cette étoile. On n'arrive jamais à s'en souvenir. Et là, le fait de connaître maintenant les histoires qui appartiennent aux constellations, eh ben, ça a tout changé pour moi. Le ciel m'est devenu familier grâce aux histoires.
Mais du coup, tu t'es entraînée pour cet événement ?
Oui.
Tu as observé quelques nuits avant pour,
ouais,
pour prendre quelques marques.
Des petits schémas, Cassiopée, Persée, Andromède. J'ai fait des petits schémas, ouais.
Mais tu t'en es bien sorti, puisque on était peut-être 20, 25,
ouais.
Ou même un peu plus, je ne sais plus.
Ouais.
J'étais devant,
nuit,
il y avait
des...
ouais,
rien.
En plus de nuit.
Il n'y avait vraiment pas de lumière pour le coup.
Et je pense que tout le monde a apprécié cette soirée, à écouter ces différents mythes que tu présentais, qui n'étaient pas restreints à la mythologie grecque. En plus, tu es allé chercher un peu ailleurs aussi. Et avant ça, tu t'avais observé dans un télescope ou ta première
non.
fois, c'était samedi, du coup,
ouais.
À
Chabestan. J'ai jamais vu
Saturne de près, comme ça.
Ouais. Ouais.
Ça t'a plu ?
Ah ouais, c'est magique. Hein.
Et ouais.
Il y a vraiment quelque chose de magique.
Tu as des questions, Fred, ou alors si, est-ce que tu es partante pour nous réciter un...
Oui, c'était l'idée surtout, c'était que tu nous racontes quelques histoires. Juste, Axel, tu as dit que toi, Léon, tu étais allé chercher dans d'autres cultures. Est-ce que tu peux préciser lesquelles ?
Il me semble que j'ai raconté une histoire qui vient de Chine, une légende qui vient de Chine, qui concerne l'étoile de Vega et d'Altaïr, ainsi que la constellation du Cygne. C'est une légende qui est importante en Chine parce que je crois que ça fait référence à un jour dans l'année qui est encore aujourd'hui la fête des amoureux, la fête de l'amour. Donc, voilà.
Avec Altaïr et Vega qui sont séparés par la rivière d'argent qui est la Voie lactée.
Tu l'avais mentionné, je crois, il me semble, cette histoire une fois.
Mmh. voilà, elle a plein de noms différents, la Tisserande et le Bouvier, la Fileuse de nuages, et ouais. Voilà, elle a plein de titres différents, plein de versions différentes aussi. J'ai raconté une histoire qui venait d'Afrique de l'Ouest, une histoire que je vais vous raconter là, tout à l'heure peut-être, du Pérou, d'Amérique du Sud, et puis de France aussi, et puis ouais, et de Grèce.
Eh bien super. Et donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous raconter comme histoire ?
Aujourd'hui, je vais vous raconter une première histoire qui raconte comment les étoiles sont apparues dans le ciel.
Eh oui, ça va faire écho avec le fond diffus dont tu parlais, la création d'une
une autre approche.
Ouais, c'est ça. Quand tu veux.
D'accord. Je suis entrée dans une forêt sans arbres où coulait une rivière sans eau. Un oiseau à cornes m'a montré le chemin de son doigt crochu. J'ai fermé les yeux pour mieux voir. Et c'est là que j'ai vu, éblouie par la lune, des histoires qui tombaient du ciel comme des crapauds sur un plateau. Croyez-moi si vous pouvez, les conteuses sont des menteuses qui disent toujours la vérité. Au tout début du monde, ni la nuit, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles n'existaient. Au tout début du monde, le ciel était couché sur la terre. Et un jour, la terre donne naissance à une fille. Cette fille est une géante. Elle marche courbée car elle porte sur son dos le poids du ciel. Et la terre, qui voit le fardeau porté par sa fille, crie au ciel « Pousse-toi, ciel, redresse-toi, laisse ma fille se redresser. » Mais le ciel fait la sourde oreille. Alors la terre a une idée. Elle fait apparaître un grand mortier ainsi qu'un pilon pour sa fille. Et elle lui dit « Ma fille, pile et redresse-toi. » Alors, la géante saisit le pilon. Elle récolte les grains de mil, elle les dépose dans le mortier et elle soulève le pilon jusqu'au-dessus de sa tête, mais ça coince. Le ciel est là. « Eh, au ciel, soulève-toi un peu, que je puisse me redresser. » Mais le ciel fait la sourde oreille. Alors, la géante rassemble ses forces, elle pousse avec le pilon, elle pousse jusqu'à tendre les bras, et elle rabaisse le pilon. Elle soulève, elle pile. Elle soulève, elle pile. Elle soulève, elle pile, elle soulève, elle pile. Et chaque fois qu'elle soulève le pilon, au-dessus dans le ciel, on entend « Aïe, ouïe, aïe, ouïe, aïe, ouïe, tu me fais mal avec ton pilon, tu me fais mal avec ton pilon, tu me fais mal avec ton pilon. » C'est au tour de la géante de faire la sourde oreille, elle continue de piler. Elle pile comme ça pendant des heures, pendant des jours. Mais le ciel, il en a assez de se faire battre par le pilon, alors petit à petit, il se soulève. Encore un peu. Encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu, jusqu'à être hors de portée du pilon. Et pour la première fois, la géante se redresse complètement. Elle peut voir l'horizon. Elle voit les multiples chemins qui parcourent la terre, la beauté du monde. Elle lève les yeux vers le ciel qui est maintenant si loin. Et dans le ciel, il y a des milliers de trous. Ce sont les traces de son pilon. La géante met le chemin sous ses pieds. Elle marche. Elle veut découvrir le monde maintenant qu'elle le voit. Ah, tiens, là, au bord du chemin, il y a un caillou. Un joli caillou. Il est tout rond, tout lisse. La géante lance le caillou dans le ciel. Il vient se ficher dans un des trous du ciel. Il se met à briller. Et on raconte que c'est ainsi que la première étoile apparut. La géante, elle a marché, elle a fait plusieurs fois le tour de la terre, et chaque fois qu'elle a trouvé un caillou qui était beau, qui était rond, qui était lisse, hop, elle l'a lancé dans le ciel. Il est venu se ficher là-haut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le ciel est rempli d'étoiles. En Afrique, on raconte que c'est ainsi que les étoiles sont apparues. Sur la terre, Les arbres se sont mis à pousser pour maintenir le ciel. Les êtres vivants, les humains, sont apparus. Et si nous, humains, nous pouvons marcher droit, dressés entre la terre et le ciel, c'est grâce à la fille de la terre. Et cette histoire est terminée. Comme une étoile, elle a filé.
Merci Léon.
Bravo.
Vous, on est à la radio, vous n'avez pas vu toute la gestuelle. Nous, on a vu, parce que les conteuses font aussi ça. Et
Oui, ça demande d'être très immobile, de parler dans un micro, c'est pas facile.
Et oui, je pense que maintenant, on aurait préféré peut-être un micro.
Parce que j'utilise mes deux mains à chaque fois pour faire des gestes.
On sera suffisamment à l'aise pour nous en proposer une deuxième.
Ouais, bon. Ça marche. Cool. Alors, cette deuxième histoire, c'est une histoire... Donc, la première histoire, c'est une histoire qui vient d'Afrique, et je crois d'Afrique de l'Ouest. Je ne connais pas exactement le pays, mais il y a plusieurs versions de cette histoire-là. Mmh. Et la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui vient des Pyrénées. Il y a notamment un homme qui s'appelle Espinassous qui la raconte dans les Pyrénées, qui est un conteur et animateur nature. Ça commence comme ça, ça commence dans les montagnes, évidemment, dans les Pyrénées. Ça commence dans les montagnes, il y a une ferme, il y a une ferme en pierre. Et là vit Alcaïde. Et Alcaïde, c'est une éleveuse de taureaux. Dans sa famille, on élève les taureaux de génération en génération. Et ce soir-là, Alcaïde, elle est inquiète parce qu'il y a une vache dans l'étable qui doit mettre bas. Ça fait plusieurs jours, elle attend. Elle attend. Et ce soir, il y a un orage formidable. Un orage extraordinaire, il pleut, c'est le déluge. Les éclairs déchirent le ciel, l'orage fait trembler la terre et la foudre tombe juste à côté de l'étable. Et Alcaïde entend des mugissements, c'est la vache. Ça doit être maintenant. Il ne faut pas qu'elle arrive trop tard. Alors elle ouvre la porte, elle brave les éléments, elle entre dans l'étable. Et là, dans la paille couchée, il y a deux veaux. Elle n'en a jamais vu des comme ça. Ils ont un poil blanc et des yeux noirs couleur nuit. Alcaïde, elle élève ces deux veaux qui deviennent des beaux taureaux. Et quand je vous dis que c'est des beaux taureaux, ça c'est reconnu dans tout le pays. Elle descend dans les villages, dans les villes, avec ses deux taureaux. Ils impressionnent tout le monde. Il y a des bruits qui courent dans le pays. On dit, ces deux taureaux-là, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils viennent peut-être du ciel. En tout cas, on dit que si on caresse ces taureaux, on peut trouver l'amour. On dit que si on les caresse, on peut guérir de toutes les maladies. Alcaïde, ce soir-là, elle remonte d'une foire où elle a passé la journée avec ses deux taureaux. Elle remonte dans la ferme, elle est épuisée, elle laisse les taureaux à l'étable. Là, il y a le bouvier, le gardien qu'elle a embauché. Bon, le bouvier, elle lui fait confiance, mais c'est vrai que aussitôt qu'il s'assoit sur son petit tabouret, il a la tête qui tombe, les paupières qui se ferment et il s'endort dans la paille. Bon, Alcaïde, elle est rentrée dans la maison juste à côté de l'étable. Il y a son mari qui est là. Son mari, c'est un berger, il a toujours son chien avec lui. Ils se sont rencontrés dans la montagne. Il a fait un bon repas. Ils mangent ensemble, et puis Alcaïde, épuisé, va se coucher. Le mari s'assoit dans le fauteuil en osier, il regarde les flammes de la cheminée avec son chien à ses pieds. Et lui aussi, il s'endort. Et la dernière bougie de la maison s'éteint. Oui, mais dehors, devant la maison, caché dans un buisson, il y a deux voleurs. Et ces voleurs, ils ont suivi Alcaïde et les deux taureaux depuis la foire. Ils ont préparé leur coup. Alors quand la dernière flamme s'éteint dans la maison, ils sortent de leur cachette et ils marchent sur la pointe des pieds. Ils passent devant la maison. Ils arrivent devant l'étable, ils collent leur oreille contre la porte en bois de l'étable. À l'intérieur, ça ronfle. Ils ouvrent la porte. Le bouvier est bien là en train de dormir dans la paille et les deux taureaux tournent le dos aux voleurs. Les voleurs sortent de leur sac des cordes discrètement. Ils ont formé des lassos avec les cordes. Ils lancent les cordes s'accrochent aux cornes des taureaux. Les taureaux balancent la tête, les taureaux se débattent, grattent le sol de leurs sabots, et les voleurs tirent un peu sur les cordes pour que les taureaux se retournent, pour que les taureaux les suivent à l'extérieur de l'étable. Mais les taureaux ne sont pas d'accord, non. Les taureaux se débattent de plus en plus fort, et d'un grand coup de tête, ils cognent le mur en bois de l'étable qui s'effondre. Et les taureaux s'enfuient en courant. Tac-tac, 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 tac-tac. Les voleurs s'accrochent aux cordes et poursuivent les taureaux en soufflant. Et il y a le Bouvier. Bouvier, il finit quand même par se réveiller avec tout ce boucan. Il voit les taureaux, tac-tac, tac-tac, et les voleurs. Il se met à courir, à crier, « Revenez, revenez !» Ouais, mais ça réveille à l'intérieur de la maison le chien du mari qui se met à aboyer. Et ça réveille le mari. Et le mari, il voit les taureaux, tac, 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 tac. Et les voleurs, et le Bouvier, revenez, revenez. Et le chien, waf, waf. Alors le mari, il crie, au pied, au pied. Tout ce bruit, bah, ça réveille Alcaïde qui se lève d'un bond sur son séant. Elle regarde par la fenêtre, elle voit ses taureaux, tac, 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 les voleurs. Le Bouvier, revenez, revenez. Le chien, waf, waf. Le mari, au pied, au pied. Et Alcaïde se lance à leur poursuite en criant, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Et tout ce monde-là, toute cette équipée-là, court à travers les montagnes toute la nuit. On entend les taureaux, tac, 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 tac. Les voleurs, le Bouvier, revenez, revenez. Le chien, waf, waf. Le mari, au pied, et Alcaïde, nom de Dieu. Les taureaux courent jusqu'au sommet d'une montagne et, arrivés au sommet d'un grand bond, ils sautent dans le ciel. Poursuivis par les voleurs, poursuivis par le Bouvier, poursuivis par le chien, le mari et Alcaïde. Et on dit qu'aujourd'hui, ils continuent de courir. Voilà pourquoi la grande ours, ou plutôt la casserole, a cette forme-là. Ce sont les deux taureaux poursuivi par les deux voleurs, poursuivi par le Bouvier, le mari et son chien, et Alcaïde, la dernière étoile de la casserole. Et cette histoire est terminée. Elle a filé, comme une étoile, elle a filé.
Bravo,
bravo.
Je t'applaudis.
Merci beaucoup, Léone, pour ces histoires.
Avec plaisir.
Et pour le jeu de conteuse. C'est pas juste l'histoire, il y a toute la mise en scène.
La mise en scène invisible.
Ouais, mais je pense qu'on perçoit quand même des choses.
Ouais, je l'ai apprécié de nuit, donc à moitié. Là, de jour, mais pour ceux qui nous écoutent, ils ne la voient pas mieux finalement. Moi, de nuit et de soir, la gestuelle. Merci d'être venu et de nous avoir partagé ça, Léone. Pour te retrouver, puisque c'est donc ton activité d'être conteuse, tu as un site internet peut-être ou...
Ouais, ça s'appelle Léone Conteuse.
Tout simplement. Cool. Je vous invite à aller voir Léone sur internet, mais surtout en vrai.
Ouais, en vrai. Rassemblons-nous en vrai.
Tu as quelque chose de prévu peut-être à annoncer?
Eh bien, avec le collectif des conteurs du Diwa, qu'on s'appelle les Contants, on va organiser une soirée conte sur la mort le 1er novembre.
Okay.
Donc restez à l'affût, on racontera des histoires sur la mort.
Vous avez une idée du lieu déjà ou pas?
Alors, comme c'est pas moi qui m'occupe du lieu, je
ne
pourrais pas dire, mais on en a un, mais je ne sais pas lequel c'est.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans l'émission pour nous faire partager tes histoires et ton conte.
Merci à vous.
On vous souhaite de belles observations et on vous dit à la semaine prochaine.
Passez un bon dimanche sur Radio Diwa.